Pascal Rigaud est agrégé en sciences économiques et sociales et auteur de « Les briques, Brésil, Russie, Inde, Chine, les puissances économiques du XXIe siècle » paru aux éditions Bréal. En préparation de son prochain ouvrage, il s'intéresse de très près au devenir international de la monnaie chinoise, le yuan, qui pose la question de l'avenir du développement économique en Chine et dans le monde. Pascal Rigaud, bonjour.
Bonjour.
Alors, où en est globalement l'économie chinoise en septembre 2012, quelques semaines avant que Hu Jintao passe le pouvoir à Xi Jinping et un an après le début du 12e plan quinquennal?
Alors là, je reviens de Chine cet été et j'étais surpris que dans les informations, on parlait surtout de surchauffe, hein, de surproduction en acier notamment en Chine. Et la question était de se dire, est-ce que l'économie chinoise n'a pas été surdimensionnée par rapport aux besoins à la fois internes et de l'économie mondiale. Donc où en est-elle? Elle continue sa croissance, moindre que ce qui était anticipé. On serait autour de 7%. Je rappelle que c'est énorme, 7%, puisque les 30 glorieuses françaises, hein, c'était une moyenne de 5% par an. Mais ces 7% ici sont souvent vus comme un recul, un repli par rapport aux 10% des années passées. Donc l'économie chinoise continue sa croissance, mais elle rencontre dans plein de domaines quelques difficultés qui ne sont pas des difficultés de repli, qui sont des difficultés liées à un ralentissement, un redéploiement ou une transformation des entreprises et de la structure économique.
Mais alors, c'est quoi finalement la monnaie chinoise ?
Alors, la monnaie chinoise, c'est, comme son nom l'indique, le renminbi. D'abord, la monnaie du peuple. Alors, j'ai pris avec moi quelques billets, juste pour rappeler que toute monnaie est une monnaie du peuple, mais celle-ci a préféré s'appeler une monnaie du peuple. Et quand on regarde un billet chinois, j'ai pris par exemple ici un billet de 50 yuan, on découvre, en Chine comme ailleurs, que la monnaie, c'est d'abord un facteur d'unification. Ici, pourquoi je prends ce billet de 50 yuan ? On voit, côté première face, personnage de Mao Tse-tung. Donc même si les leaders politiques ont changé sur la monnaie, le fondateur de la République est toujours présent. Et puis de l'autre côté, une image du Tibet, Lhasa. Et on voit bien ici que la monnaie, ça vise à unifier. Et que cette unification ne semble pas être finie, en tout cas pour la Chine. Et puis peut-être un autre élément à noter, c'est que la somme de 50 yuan et le nom de banque centrale est noté dans les plusieurs langues, hein, qui rappelle l'aspect ethnique ou l'existence de nombreuses minorités, pour ceux qui savent lire le tibétain ou le ouïghour, là, écrit ici en arabe, ils peuvent s'exercer sur ces billets. Donc, Renminbi, hein, le renminbi, comme on dit, hein, cette monnaie du peuple. J'allais dire que la monnaie chinoise, c'est d'abord des billets. Pourquoi j'insiste sur ce point? C'est parce que elle fut longtemps des pièces représentant le ciel et la terre, hein, le symbole de cette pièce ronde avec un point carré. Et ces billets, c'est tout un symbole. D'abord parce que la Chine est un des rares pays à avoir gardé les mêmes dénominations depuis une cinquantaine d'années. Alors, qu'est-ce que nous expliquent ces dénominations? Elles nous expliquent que derrière la monnaie, il y a une envie de stabilité, et peut-être que à la fois la permanence du personnage de Mao Tse-tung renforce, je dirais presque, la légitimité du Parti communiste chinois, mais aussi veut montrer que cette monnaie est stable dans le temps. Donc, petit rappel historique, la monnaie communiste, hein, le renminbi n'est pas la première monnaie communiste, hein, elle a été créée dès la Longue Marche, les communistes qui arrivent qui prennent les villes créent leur propre monnaie, mais cette monnaie communiste s'est d'abord imposée comme une monnaie qui voulait briser l'inflation de la monnaie nationaliste. Pourquoi je mentionne ce point, c'est que l'inflation aujourd'hui, c'est peut-être devenu un des grands soucis du gouvernement chinois. Alors, pour ceux qui vont en Chine, on peut se rendre compte tout simplement de l'inflation. J'ai gardé deux billets ici, un monnaie de 1 tiao et 5 tiao. les touristes, de moins en moins, les utilisent. Le 5, j'ai utilisé simplement pour aller aux toilettes, le 5 Tiao, alors qu'il y a 10 ans, on pouvait, dans les campagnes, faire quelques courses avec cette dénomination, ce billet. Hein, et de plus en plus, ce billet, on voit avec le pouvoir d'achat de ces billets qu'il y a une inflation qui se répand en Chine, à la fois symbole du développement économique, mais aussi peut-être menace sur le gouvernement. Donc la monnaie, c'est tout ça, c'est des symboles à la fois politiques, des volontés d'unification. Ici, on trouve sur ces billets la Grande Muraille, des représentants de minorités, le Tibet qui est présenté comme grand symbole national, et puis aussi des menaces. Notamment face à son pouvoir d'achat. Et ce billet de 100 yuan, un rouge, je dirais comme la couleur du Parti communiste, c'est aussi ce billet qui perd de plus en plus de sa valeur et qui, à terme, si cette inflation se développe, pourrait un peu remettre en cause la légitimité du pouvoir.
Alors, ce qu'il faudrait rappeler aussi, c'est que ce billet de 50 yuan, il est vert. Cela dit, voilà, un billet vert. La phrase de Deng Xiaoping en 92, s'enrichir est glorieux, est plus que jamais d'actualité en Chine. Mais est-ce qu'elle pourra le rester?
Alors, c'est toujours difficile, quand on prend des citations d'hommes politiques, d'essayer de penser dans son contexte. Alors, s'enrichir est glorieux. Cela dit, nous, on pense peut-être au mania chinois ou à ces jeunes. Là, je crois que le terme, c'est fou gène, ceux qui réussissent fortement et qui vont épater avec leurs Audi, leurs montres Rolex et leurs beaux apparts sur le fleuve à Shanghai. Je pense que cette richesse qui s'accumule rapidement pose des problèmes sociaux importants. Cela dit, s'enrichir est glorieux, ça peut être aussi à destination de petits paysans qui, grâce au développement économique, ont réussi à accéder à certains biens de consommation, à certains ouvriers et plutôt même commerçants qui ont vu s'améliorer. Et donc cette phrase s'enrichir est glorieux. Je pense qu'il faut il faut la penser en fonction du public qui la reçoit. Et en tout cas, mon avis, pour un Chinois du Sud, de la Chine, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté pour être d'accord avec cette formule. Deng Xiaoping, souvent en matière économique, hein, on le voit pour se dire qu'il faut aussi d'abord être efficace, avec la célèbre phrase, qu'importe la couleur du chat pourvu qu'il attrape la souris. Je pense que ces deux phrases, hein, s'enrichir est glorieux, ou ces citations qui sont prises d'Aung San Suu Kyi, souvent, elles visent à souligner une sorte de pragmatisme, hein, où le résultat compterait plus que l'idéologie. Je pense que c'est dans ce sens-là que j'entends cette phrase et que je regarde la Chine aujourd'hui avec en tout cas en matière monétaire, un pragmatisme important, hein, où, comme pour les zones économiques spéciales, on expérimente, on limite le nombre d'acteurs et puis, fur et à mesure, on étend les expérimentations. Et voilà ce que je. Enfin, comment j'entends cette phrase, c'est-à-dire que je pense qu'elle s'adresse, je dirais, au petit peuple, particulièrement un peu pour l'inviter à ne pas avoir peur des transformations économiques dont il est aussi la principale victime quand il se fait chasser de ses terres, qu'il n'a pas accès aux infrastructures scolaires, etc.
Comment expliquer le déficit en 2012 de la balance commerciale de la Chine?
Alors, le déficit, il est souvent mensuel, celui qu'on mentionne annuellement. La balance commerciale reste excédentaire. Par contre, certains mois, il peut y avoir des déficits. Mais je pense que ici, c'est un peu de souligner que la Chine est aussi un importateur. Ce qu'on l'oublie, elle n'est pas, certes, elle est le premier exportateur, devenue le premier exportateur mondial, mais elle est aussi devenue deuxième importateur mondial. Peut-être deux explications. Elle importe à la fois des produits de haute technologie, hein, même s'il va y avoir des Airbus qui vont sortir des usines chinoises, l'essentiel des Boeing ou des Airbus qui équipent les compagnies aériennes chinoises ont été importés. Et puis surtout, elle importe des matières premières, car si elle produit des, elle est aussi un pays qui a d'énormes richesses minières. Elle est un grand consommateur, donc elle importe aussi des matières premières. Donc la hausse du prix du pétrole ou du cuivre ou d'autres minerais et l'augmentation des volumes peuvent à certains moments se traduire par un déséquilibre.
Le yuan, c'est la meilleure arme de guerre économique et géopolitique de la Chine ?
C'est une arme de développement et je ne sais pas si c'est la meilleure. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le yuan, ou plus exactement la gestion du taux de change du yuan avec d'autres monnaies, notamment avec le dollar américain, est un moyen pour la Chine de se développer. Un exemple tout simple, le taux de change du yuan avec le dollar évolue, cela a des effets sur le prix des produits qui sont importés et le prix des produits qui sont exportés, donc des effets sur les producteurs internes qui vendent ces produits ou qui achètent ces produits, pétrole, minerais, etc. Donc la Chine veille particulièrement à contrôler l'évolution de son taux de change contre beaucoup de pays, notamment les États-Unis, l'Union européenne, on pourrait ajouter aussi le Brésil ou l'Australie, ils peuvent lui reprocher d'utiliser ce qu'on appelle l'arme du change pour favoriser ses exportateurs au détriment des autres.
Et donc, à quand la réévaluation du yuan ?
Alors, le yuan est... Ce que l'on oublie, c'est que le yuan a connu une forte réévaluation de plus de 30% depuis 2008. La question, elle est plutôt, est-ce que cette réévaluation est suffisante ? Ça, c'est la réponse, elle est presque simple. Enfin, il peut y avoir un accord entre les économistes. La réponse, c'est non. Le yuan reste plus ou moins sous-évalué. Par contre, là où c'est plus étrange, c'est que est-ce qu'une forte réévaluation du yuan changerait la donne ? Là, les réponses sont plus tranchées. Beaucoup disent que non, la réévaluation du yuan ne changerait pas forcément le sens, enfin, ne changerait pas, même pas du tout le sens des échanges commerciaux et les déficits, notamment américains ou européens, face à la Chine. Ça, c'est un deuxième débat. Pour les économistes, si on regarde quel devrait être le taux de change idéal du yuan, le taux de change d'équilibre du yuan, on s'aperçoit que, bien évidemment, que la Chine, en maintenant sa parité pendant certaines périodes, plus ou moins fermement, avec le dollar, a empêché la valeur de sa monnaie de s'apprécier telle qu'elle aurait dû, compte tenu du niveau de développement, de l'importance des exportations. Mais fondamentalement, et c'est peut-être là une réflexion à venir, c'est que la compétitivité des produits chinois ne dépend pas simplement du taux de change, elle dépend des salaires chinois, de la productivité chinoise, et puis d'autres facteurs qui peuvent être sa place privilégiée dans la division internationale du travail, etc.
Alors donc le yuan est aujourd'hui lié au dollar, il est inconvertible. Quel intérêt pour la Chine à vouloir internationaliser sa monnaie ?
Alors, je vais juste corriger, le yuan n'est pas totalement convertible, mais il est convertible du point de, au niveau des transactions commerciales. C'est-à-dire qu'au niveau de la balance des paiements, si on divise en deux grandes parties, balance des transactions courantes et compte de capital, on peut librement échanger du yuan. C'est ce que fait le touriste quand il arrive... Enfin, je dis librement. Il peut échanger facilement son yuan quand il arrive à l'aéroport, avec toujours des petites surprises où il doit quand même montrer son passeport, ce qui rappelle qu'on ne change pas la somme que l'on veut en yuan, éventuellement un contrôle du pouvoir sur les sommes qui sont introduites. Mais fondamentalement, pour les entreprises, pour les particuliers, il y a une libre convertibilité du taux de change qui fait qu'il y a un cours du change... 8 yuan pour 1 euro, voilà, c'est ici librement convertible. Là où le débat sur la convertibilité est posé, c'est en matière d'échanges financiers où il n'y a pas libre convertibilité pour toutes les opérations financières. Et la Chine fait partie de ces pays qui ont décidé de maintenir un fort contrôle sur les investissements directs, les investissements de portefeuille qui rentrent et qui sortent du pays. C'est cet aspect qui ouvre le débat sur l'internationalisation du yuan. En effet, si le yuan peut être échangé pour les transactions commerciales, comme l'essentiel des flux aujourd'hui de la mondialisation sont des flux financiers, entrer dans la mondialisation, c'est aussi rentrer dans les échanges de flux financiers. Et là, le débat est ouvert. Est-ce que la Chine pourrait être une monnaie internationale si elle n'offre pas tous les services qu'offre une monnaie, enfin les autres monnaies dites internationales ?
Mais alors justement, la Chine et le Japon échangent depuis juin 2012 directement les yuan et les yens, sans passer par le dollar, pour déterminer le taux de change. C'est peut-être un premier pas vers l'internationalisation du yuan ?
Alors ici, c'est un des premiers pas qui a commencé avant le Japon, mais le Japon c'est aussi très symbolique, qui a commencé d'abord avec les pays frontaliers au sud. Il y a eu des échanges, enfin la Banque centrale chinoise a permis aux exportateurs et aux importateurs chinois de libeller directement leurs échanges dans leur monnaie respective ou en yuan, afin de ne pas passer par le dollar. Donc on voit tout à fait, si une, on se rappelle qu'une monnaie a plusieurs fonctions, le yuan devient une unité de compte internationale, devient un outil de transaction, notamment commercial, et le Japon, qui est un des grands partenaires commerciaux de la Chine, inaugure ce développement alors, d'une monnaie, on va dire, asiatique. Hein, je pense que sans hésiter, le yuan est devenu une monnaie asiatique, une monnaie régionale qui s'impose dans les transactions commerciales. Pour limiter ce que je viens de dire, 90% des exportations chinoises sont encore libellées dans une autre monnaie que le yuan, notamment le en dollars. Mais je crois que la tendance est claire, c'est que le choix de développer le yuan comme unité de compte et moyen de paiement pour les échanges commerciaux internationaux a donné ici un premier rythme d'une monnaie qui a vocation à émerger, en tout cas dans la zone asiatique.
Et pas que dans la zone asiatique, puisque les Chinois cherchent aujourd'hui à remplacer en Amérique latine le dollar par le yuan.
Alors, peut-être avant d'arriver en Amérique latine, je crois qu'il faut mentionner d'abord Hong Kong. Hong Kong qui est... un peu la base avancée hein, de l'internationalisation du yuan pour des raisons financières. C'est-à-dire que il y a en fin de compte deux yuan, quelquefois même trois, quelques indices trois, mais il y a le CNY, hein, le Chinese Yuan, c'est la dénomination internationale du yuan, hein, ou quelquefois on dit yuan onshore, c'est le yuan du continent. Et puis il y a depuis 2010, un yuan offshore, c'est-à-dire un yuan qui est créé à partir des banques installées à Hong Kong, le CNH, hein, China's Hong Kong, le yuan de Hong Kong, ou yuan offshore, et qui forme ici, la deuxième étape de l'internationalisation, le début d'une internationalisation financière. Cette internationalisation financière, elle se passe donc à Hong Kong, notamment par le développement de ce qu'on appelle les dim sum bonds. Dim sum, c'est un peu les raviolis de Hong Kong, hein, et donc les dim sum bonds, c'est les obligations qui sont émises à Hong Kong en yuan offshore. On peut revenir après sur ce point, mais ici, il se passe quelque chose au niveau financier, c'est pour ça que je distinguais bien avec les échanges commerciaux. Au niveau financier, le yuan devient, grâce à ce yuan offshore, une monnaie d'emprunt pour les entreprises, pour les organisations internationales, pour les banques chinoises, une monnaie qui va être utilisée pour des raisons financières. Pourquoi je distingue ce point-là ? Parce que l'autre aspect du développement financier du yuan, c'est les échanges entre les banques centrales. Et là, on s'aperçoit qu'on dépasse l'Asie pour d'abord aller en Afrique. La Banque centrale chinoise a signé des accords de swap avec la banque nigérienne qui commence à avoir des renminbi, hein, des yuan dans ses réserves de change, en faible quantité, mais symboliquement c'est important. Et puis aussi avec des pays d'Amérique latine. Et là, en Amérique latine, on voit ici que le yuan devient de manière réduite encore, mais une monnaie potentielle pour les transactions commerciales et pour les échanges entre banques centrales, donc une fonction un peu financière. Et donc cette internationalisation du yuan, je pense qu'il faut bien se rappeler, hein, le fait référence au 12e plan, je crois 2011-2015, c'est ça. Il est bien inscrit dans ce 12e plan que le gouvernement doit travailler à internationaliser ce yuan, mais cette internationalisation se fait de manière progressive. D'abord une régionalisation du yuan avec comme base avancée Hong Kong, et fur et à mesure le yuan prend sa place, et pour venir en Europe, Londres s'est posée d'ailleurs comme candidate à l'émission de produits financiers en yuan. Donc Londres et Singapour, on voit bien ici que le mouvement d'une monnaie asiatique vers une monnaie potentiellement globale s'affirme lentement, mais s'affirme.
Des économistes prédisent que la Chine, aujourd'hui deuxième puissance mondiale, dépassera les États-Unis en 2027, tandis que d'autres annoncent l'effondrement de la Chine. Il y a peut-être un juste milieu ?
Oui, alors effondrement de quoi ?
C'est toujours, de l'économie.
Voilà, alors ce qui est sûr, c'est que on ne voit pas pourquoi, c'est un peu comme pour beaucoup de phénomènes, la croissance serait un phénomène indéfini, elle bute sur plein d'éléments, donc trois qui sont un peu anticipés, peut-être à plus long terme, puisque c'est pas la priorité du gouvernement chinois, mais elle peut buter sur le développement durable, elle peut buter peut-être plus intéressant sur des enjeux liés à l'essoufflement des exportations et un moindre relais intérieur, et puis elle peut aussi buter sur des questions de financement, et notamment l'accumulation de créances douteuses par les entreprises d'État, les régions et les structures qui assurent le financement des infrastructures peuvent être ici des éléments qui peuvent ralentir le développement économique chinois. Après, je pense qu'un écroulement de la Chine ne viendrait pas seul. C'est-à-dire qu'il serait lié à un écroulement mondial. Alors, La Chine va dépasser les États-Unis, oui. D'ailleurs, si on est un peu rigoureux et si on souhaite aux Chinois d'avoir le même mode de développement que nous, étant beaucoup plus que nous, on peut que souhaiter qu'ils nous dépassent en mode de développement. La question, c'est pas tellement qu'ils nous dépassent, c'est ce qu'on peut leur souhaiter, en tout cas à titre individuel, c'est de se dire quel est le sens de ce dépassement et quel serait l'impact sur nos modes de vie. Et c'est là une question qui me paraît centrale. Est-ce que ce dépassement chinois se ferait par des multinationales qui domineraient notre mode de consommation, notre mode de production? Est-ce que nous allons être les futurs employés de multinationales chinoises? Voilà une question qui peut être intéressante. D'ailleurs, il y a beaucoup de Chinois qui sont des salariés de filiales de General Motors, de Carrefour, de Peugeot en Chine. Bon, peut-être que nous-mêmes serons des futurs salariés de Baidu, entreprise Internet, ou de ZTE, entreprise de télécommunication. Bon, ça peut être une question, se dire, est-ce que ces multinationales chinoises, comme de manière générale les pays émergents, s'affirment et vont dépasser les multinationales anglo-saxonnes? Voilà une première question. Et l'autre question, c'est de se dire, est-ce que ce niveau de vie, de manière globale des émergents, se fait à notre dépens? Et donc là, on est dans une autre question plutôt géopolitique, qui, plus qu'une question pratique, parce qu'on ne peut que souhaiter que le niveau de vie moyen des Chinois augmente. Et ce n'est pas dérangeant qu'un pays avec plus d'1,3 milliard, 1 milliard 300 millions d'habitants ait un niveau de vie supérieur à des zones qui n'ont que 500 millions d'habitants.
C'est vrai, c'est réjouissant pour eux, sauf que du coup, quand eux, ils montent, nous, on descend. Voilà, c'est un peu un jeu de balançoire. Pascal Rigaud, merci.